Le contrat de mariage, quatrième partie. Assise près des deux notaires, Madame Evangelista prêtait la plus scrupuleuse attention à la lecture des pièces. Après avoir entendu le compte de la tutelle, savamment rédigé par Solonet, et qui, de 3 500 000 francs laissés par M. Evangelista, réduisait la part de Nathalie aux fameux 1 156 000 francs, elle dit au jeune couple « Mais écoutez donc, mes enfants, voici votre contrat !» Le clerc but un verre d'eau sucrée. Solonier et Mathias se mouchèrent. Paul et Nathalie regardèrent ces quatre personnages, écoutèrent le préambule et se remirent à causer. L'établissement des apports, la donation générale en cas de mort sans enfant, la donation du quart en usufruit et du quart en nue propriété permise par le Code, quel que soit le nombre des enfants, la constitution du fonds de la communauté, le don des diamants à la femme, des bibliothèques et des chevaux au mari, tout passa sans observation. Vint la constitution du majorat. Là, quand tout fut lu et qu'il n'y eut plus qu'à signer, Madame Evangelista demanda quels seraient les faits de ce majorat. « Le majorat, madame, dit Maître Solonet, est une fortune inaliénable, prélevée sur celle des deux époux et constituée au profit de l'aîné de la maison, à chaque génération, sans qu'il soit privé de ses droits au partage général des autres biens. Quand résultera-t-il pour ma fille ? Demanda-t-elle. Maître Mathias, incapable de déguiser la vérité, prit la parole. Madame, le majorat étant un apanage distrait des deux fortunes, si la future épouse meurt la première en laissant un ou plusieurs enfants, dont un mâle, monsieur le comte de Manerville leur tiendra compte de 356 000 francs seulement, sur lesquels il exercera sa donation du quart en usufruit, du quart en nue propriété. Ainsi, sa dette envers eux est réduite à 160 000 francs environ, sauf ses bénéfices dans la communauté, ses reprises, etc. Au cas contraire, s'il décédait le premier, laissant également des enfants mâles, Madame de Manerville aurait droit à 356 000 francs seulement, à ses donations sur les biens de M. de Manerville, qui ne font point partie du majorat, à ses reprises en diamants et à sa part dans la communauté. Les effets de la profonde politique de Maître Mathias apparurent alors dans tout leur jour. « Ma fille est ruinée !» dit à voix basse Madame Evangelista. Le vieux et le jeune notaire entendirent cette phrase. « Est-ce se ruiner ?» lui répondit à mi-voix Mathias, « que de constituer à sa famille une fortune indestructible ?» En voyant l'expression que prit la figure de sa cliente, le jeune notaire ne crut pas pouvoir se dispenser de chiffrer le désastre. « Nous voulions leur attraper 300 000 francs. Ils nous en reprennent évidemment 800 000. Le contrat se balance par une perte de 400 000 francs à notre charge et au profit des enfants. » « Il faut rompre ou poursuivre, » dit Solonet à Madame Evangelista. Le moment de silence que gardèrent alors ces personnages ne saurait se décrire. Maître Mathias attendait en triomphateur la signature des deux personnes qui avaient cru dépouiller son client. Nathalie, hors d'état de comprendre qu'elle perdait la moitié de sa fortune, Paul, ignorant que la maison de Manerville la gagnait, riait et causait toujours. Solonet et Madame Evangelista se regardaient, en contenant l'un son indifférence, l'autre une foule de sentiments irrités. Après s'être livrée à des remords inouïs, après avoir regardé Paul comme la cause de son improbité, la veuve s'était décidée à pratiquer de honteuses manœuvres pour rejeter sur lui les fautes de sa tutelle, en le considérant comme sa victime. En un moment, elle s'apercevait que là où elle croyait triompher, elle périssait, et la victime était sa propre fille. Coupable sans profit, elle se trouvait la dupe d'un vieillard probe de qui elle perdait sans doute l'estime. Sa conduite secrète n'avait-elle pas inspiré les stipulations de maître Mathias? Réflexion horrible. Mathias avait éclairé Paul. S'il n'avait pas encore parlé, certes, le contrat une fois signé, ce vieux loup préviendrait son client des dangers courus, et maintenant évités, ne fût-ce que pour en recevoir ses éloges, auxquels tous les esprits sont accessibles. Ne le mettrait-il pas en garde contre une femme assez astucieuse pour avoir trempé dans cette ignoble conspiration? Ne détruirait-il pas l'empire qu'elle avait conquis sur son gendre? Les natures faibles, une fois prévenues, se jettent dans l'entêtement et n'en reviennent jamais. Tout était donc perdu. Le jour où commença la discussion, elle avait compté sur la faiblesse de Paul, sur l'impossibilité où il serait de rompre une union si avancée. En ce moment, elle s'était bien autrement liée. 3 mois auparavant, Paul n'avait que peu d'obstacles à vaincre pour rompre son mariage. Mais aujourd'hui, tout Bordeaux savait que depuis 2 mois, les notaires avaient aplani les difficultés. Les bans étaient publiés. Le mariage devait être célébré dans 2 jours. Les amis des deux familles, toute la société parée pour la fête, arrivaient. Comment déclarer que tout était ajourné? La cause de cette rupture se saurait, la probité sévère de maître Mathias aurait créance. Il serait préférablement écouté. Les rieurs seraient contre les évangélistas, qui ne manquaient pas de jaloux. Il fallait donc céder. Ces réflexions si cruellement justes tombèrent sur madame Évangélista comme une trombe et lui fendirent la cervelle. Si elle garda le sérieux des diplomates, son menton éprouva ce mouvement apoplectique par lequel Catherine II manifesta sa colère le jour où, sur son trône, devant sa cour et dans des circonstances presque semblables, elle fut bravée par le jeune roi de Suède. Solonet remarqua ce jeu de muscles qui annonçait la contraction d'une haine mortelle. Orage sourd et sans éclair. En ce moment, madame Évangélista vouait effectivement à son gendre une de ces haines insatiables dont le germe a été laissé par les Arabes dans l'atmosphère des deux Espagnes. « Monsieur, dit-elle en se penchant à l'oreille de son notaire, vous nommiez ceci du galimatia. Il me semble que rien n'était plus clair. « Madame, permettez. Monsieur, dit la veuve en continuant sans écouter Solonet. Si vous n'avez pas aperçu l'effet de ces stipulations lors de la conférence que nous avons eue, il est bien extraordinaire que vous n'y ayez point songé dans le silence du cabinet. Ce ne saurait être par incapacité. » Le jeune notaire entraîna sa cliente dans le petit salon en se disant à lui-même « J'ai plus de 1 000 écus d'honoraires pour le compte de tutelle. 1 000 écus pour le contrat, 6 000 francs à gagner par la vente de l'hôtel, en tout 15 000 francs à sauver. Ne nous fâchons pas. » Il ferma la porte, jeta sur madame Évangélista le froid regard des gens d'affaires, devina les sentiments qui l'agitaient et lui dit « Madame, quand j'ai peut-être dépassé pour vous les bornes de la finesse, comptez-vous payer mon dévouement par un semblable mot ?»« Mais, monsieur, madame, je n'ai pas calculé l'effet des donations, il est vrai. Mais si vous ne voulez pas du comte Paul pour votre gendre, êtes-vous forcé de l'accepter? Le contrat est-il signé? Donnez votre fait et remettons la signature. Il vaut mieux attraper tout Bordeaux que de s'attraper soi-même. Comment justifier à toute la société déjà prévenue contre nous la non-conclusion de l'affaire? Une erreur commise à Paris, un manque de pièces, dit Solonet. « Mais les acquisitions ? Monsieur de Manerville ne manquera ni de dot ni de parti. Oui, lui ne perdra rien, mais nous perdrons tout, nous. »« Vous, reprit Solonet, vous pourrez avoir un compte à meilleur marché, si pour vous le titre est la raison suprême de ce mariage. »« Non, non, nous ne pouvons pas ainsi jouer notre honneur. Je suis prise au piège, monsieur. Tout Bordeaux demain retentirait de ceci. » Nous avons échangé des paroles solennelles. Vous voulez que mademoiselle Nathalie soit heureuse, reprit Solonet. Avant tout, être heureuse en France, dit le notaire. « N'est-ce pas être la maîtresse au logis ? Elle mènera par le bout du nez ce sot de Manerville. Il est si nul qu'il ne s'est aperçu de rien. S'il se défiait maintenant de vous, il croira toujours en sa femme. Sa femme, n'est-ce pas vous ? Le sort du comte Paul est encore entre vos mains. » « Si vous disiez vrai, monsieur, je ne sais ce que je pourrais vous refuser, » dit-elle dans un transport qui colora son regard. « Rentrons, madame, » dit maître Solonet en comprenant sa cliente. « Mais sur toute chose, écoutez-moi bien. Vous me trouverez après inhabile, si vous voulez. » « Mon cher confrère, » dit en rentrant le jeune notaire à maître Mathias, « malgré votre habileté, » vous n'avez prévu ni le cas où M. de Manerville décéderait sans enfant, ni celui où il mourrait ne laissant que des filles. Dans ces deux cas, le majorat donnerait lieu à des procès avec les Manerville, car alors, il s'en présentera, gardez-vous d'en douter. Je crois donc nécessaire de stipuler que dans le premier cas, le majorat sera soumis à la donation générale des biens faits entre les époux, et que, dans le second, l'institution du majorat sera caduque. La convention concerne uniquement la future épouse. « Cette clause me semble parfaitement juste, » dit maître Mathias. « Quant à sa ratification, monsieur le comte s'entendra sans doute avec la chancellerie, s'il est besoin. » Le jeune notaire prit une plume et libella sur la marge de l'acte cette terrible clause, à laquelle Paul et Nathalie ne firent aucune attention. Madame Évangélista baissa les yeux pendant que maître Mathias la lut. « Signons !» dit la mère. Le volume de voix que réprima madame Évangélista trahissait une violente émotion. Elle venait de se dire « Non, ma fille ne sera pas ruinée, mais lui, ma fille aura le nom, le titre et la fortune. » S'il arrive à Nathalie de s'apercevoir qu'elle n'aime pas son mari, si elle en aimait un jour irrésistiblement un autre, Paul sera banni de France, et ma fille sera libre, heureuse et riche. Si maître Mathias se connaissait à l'analyse des intérêts, il connaissait peu l'analyse des passions humaines. Il accepta ce mot comme une amende honorable, au lieu d'y voir une déclaration de guerre. Pendant que Solonet et son clerc veillaient à ce que Nathalie signât et paraphât tous les actes, opérations qui voulaient du temps, Mathias prit Paul à part dans l'embrasure d'une croisée et lui donna le secret des stipulations qu'il avait inventées pour le sauver d'une ruine certaine. « Vous avez une hypothèque de 150 000 francs sur cet hôtel, » lui dit-il en terminant, « et demain elle sera prise. » J'ai chez moi les inscriptions au grand livre, immatriculées par mes soins au nom de votre femme. Tout est en règle. Mais le contrat contient quittance de la somme représentée par les diamants. Demandez-les. Les affaires sont les affaires. Le diamant gagne en ce moment. Il peut perdre. L'achat des domaines d'Ozac et de Saint-Froult vous permet de faire argent de tout, afin de ne pas toucher aux rentes de votre femme. Ainsi, monsieur le comte, point de fausse honte. Le premier paiement est exigible après les formalités. Il est de 200 000 francs. Affectez-y les diamants. Vous aurez l'hypothèque sur l'hôtel Evangelista pour le second terme, et les revenus du majorat vous aideront à solder le reste. Si vous avez le courage de ne dépenser que 50 000 francs pendant 3 ans, vous récupérerez les 200 000 francs desquels vous êtes maintenant débiteur. Si vous plantez de la vigne dans les parties montagneuses de Saint-Froult, vous pourrez emporter le revenu à 26 000 francs. Votre majorat, sans compter votre hôtel à Paris, vaudra donc quelques jours 50 000 livres de rente. Ce sera l'un des plus beaux que je connaisse. Ainsi, vous aurez fait un excellent mariage. » Paul serra très affectueusement les mains de son vieux ami. Ce geste ne put échapper à madame Évangélista, qui vint présenter la plume à Paul. Pour elle, ses soupçons devinrent des réalités. Elle crut alors que Paul et Mathias s'étaient entendus. Des vagues de sang pleines de rage et de haine lui arrivèrent au cœur. Tout fut dit. Après avoir vérifié si tous les renvois étaient paraffés, si les trois contractants avaient bien mis leurs initiales et leurs paraffes au bas des rectos, maître Mathias regarda tour à tour Paul et sa belle-mère, et ne voyant pas son client demander les diamants, il dit « Je ne pense pas que la remise des diamants fasse une question. Vous êtes maintenant une même famille. » Il serait plus régulier que Madame les donna. Monsieur de Manerville est chargé du reliquat du comte de tutelle, et l'on ne sait qui vit ni qui meurt, dit maître Solonet, qui crut apercevoir dans cette circonstance un moyen d'animer la belle-mère contre le gendre. « Ah, ma mère, dit Paul, ce serait nous faire injure à tous que d'agir ainsi. Sumus ius, summa injuria, monsieur, dit-il à Solonet. Et moi, dit Madame Évangélista, qui, dans les dispositions haineuses où elle était, vit une insulte sur la demande indirecte de Mathias. « Je déchire le contrat si vous ne les acceptez pas. » Elle sortit, en proie à l'une de ces rages sanguinaires qui font souhaiter le pouvoir de tout abîmer et que l'impuissance porte jusqu'à la folie. « Au nom du ciel, prenez-les, Paul !» lui dit Nathalie à l'oreille. « Ma mère est fâchée, je saurai ce soir pourquoi. » Je vous le dirai, nous l'apaiserons. » Heureuse de cette première malice, Madame Évangélista garda les boucles d'oreilles et son collier. Elle fit apporter les bijoux, évalués à 150 000 francs par Élie Magu. Habitués à voir les diamants de famille dans les successions, maître Mathias et Solonet examinèrent les écrins et se récrièrent sur leur beauté. « Vous ne perdrez rien sur la dot, monsieur le comte, » dit Solonet en faisant rougir Paul. Oui, dit Mathias, ces bijoux peuvent bien payer le premier terme du prix des domaines acquis. Et les frais du contrat, dit Solonet. La haine, comme l'amour, se nourrit des plus petites choses, tout lui va. De même que la personne aimée ne fait rien de mal, de même la personne haïe ne fait rien de bien. Madame Évangélista taxa de si magré les façons qu'une pudeur assez compréhensible fit faire à Paul, qui voulait laisser les diamants et qui ne savait où mettre les écrins. Il aurait voulu pouvoir les jeter par la fenêtre. Madame Évangélista, voyant son embarras, le pressait du regard et semblait lui dire « Emportez-les d'ici !»« Chère Nathalie, dit Paul à sa future femme, serrez-vous même ces bijoux. « Ils sont à vous, je vous les donne. » Nathalie les mit dans le tiroir d'une console. En ce moment, le fracas des voitures était si grand et le murmure des conversations que tenaient dans les salons voisins les personnes arrivées forcèrent Nathalie et sa mère à paraître. Les salons furent pleins en un moment et la fête commença. « Profitez de la lune de miel pour vendre vos diamants, » dit le vieux notaire à Paul en s'en allant. En attendant le signal de la danse, chacun se parlait à l'oreille du mariage, et quelques personnes exprimaient des doutes sur l'avenir des deux prétendus. « Est-ce bien fini ? » demanda l'un des personnages les plus importants de la ville à Madame Évangélista. « Nous avons eu tant de pièces à lire et à écouter que nous nous trouvons en retard, mais nous sommes assez excusables, » répondit-elle. Quant à moi, je n'ai rien entendu, dit Nathalie en prenant la main de Paul pour ouvrir le bal. Ces jeunes gens-là aiment tous deux la dépense, et ce ne sera pas la mère qui les retiendra, disait une douairière. Mais ils ont fondé, dit-on, un majorat de 50 000 livres de rente. Bah, je vois que le bon monsieur Mathias a passé par là, dit un magistrat. « Certes, s'il en est ainsi, le bonhomme aura voulu sauver l'avenir de cette famille. »« Nathalie est trop belle pour ne pas être horriblement coquette, une fois qu'elle aura 2 ans de mariage, » disait une jeune femme. « Je ne répondrai pas que Manerville ne fut pas un homme malheureux dans son intérieur. »« La fleur des pois serait donc ramée ?» lui répondit maître Solonet. « Il ne fallait pas autre chose que cette grande perche, » dit une jeune fille. « Ne trouvez-vous pas un air mécontent à Madame Évangélista ? Mais, ma chère, quelqu'un vient de me dire qu'elle garde à peine 25 000 livres de rente. Et qu'est-ce que cela pour elle? La misère, ma chère. Oui, elle s'est dépouillée pour sa fille. Monsieur Manerville a été d'une exigence excessive, dit maître Solonet. Mais il sera pair de France. Les Maulincourt, le vidame de Pamiers le protégeront. Il appartient au faubourg Saint-Germain. Oh, il y est reçu, voilà tout, dit une dame qu'il avait voulu pour gendre. Mademoiselle Evangelista, la fille d'un commerçant, ne lui ouvrira certes pas les portes du chapitre de Cologne. Elle est petite nièce du duc de Casaréal. Par les femmes! Tous les propos furent bientôt épuisés. Les joueurs se mirent au jeu, les jeunes filles et les jeunes gens dansèrent, le souper se servit, et le bruit de la fête s'apaisa vers le matin, au moment où les premières lueurs du jour blanchirent les croisées. Après avoir dit adieu à Paul, qui s'en alla le dernier, Madame Evangelista monta chez sa fille, car sa chambre avait été prise par l'architecte pour agrandir le théâtre de la fête. Quoique Nathalie et sa mère fussent accablées de sommeil, quand elles furent seules, elles se dirent quelques paroles. « Voyons, ma mère chérie, qu'avez-vous ?»« Mon ange, j'ai su ce soir jusqu'où pouvait aller la tendresse d'une mère. Tu ne connais rien aux affaires, et tu ignores à quel soupçon ma probité vient d'être exposée. Enfin, j'ai foulé mon orgueil à mes pieds. Il s'agissait de ton bonheur et de notre réputation. Vous voulez parler de ces diamants ? Il en a pleuré, le pauvre garçon. Il n'en a pas voulu, je les ai. » « Dors, cher enfant, nous causerons d'affaires à notre réveil. Car, dit-elle en soupirant, nous avons des affaires, et maintenant il existe un tiers entre nous. Ah, oh, chère mère, Paul ne sera jamais un obstacle à notre bonheur, » dit Nathalie en s'endormant. Pauvre fillette, elle ne sait pas que cet homme vient de la ruiner. Madame Evangelista fut alors saisie par la première pensée de cette avarice à laquelle les gens âgés finissent par être en proie. Elle voulut reconstituer au profit de sa fille toute la fortune laissée par Evangelista. Elle y trouva son honneur engagé. Son amour pour Nathalie la fit en un moment aussi habile calculatrice qu'elle avait été jusqu'alors insouciante en fait d'argent et gaspilleuse. Elle pensait à faire valoir ses capitaux après en avoir placé une partie dans les fonds, qui à cette époque valaient environ 80 francs. Une passion change souvent en un moment le caractère. L'indiscret devient diplomate, le poltron est tout à coup brave. La haine rendit avare la prodigue Madame Evangelista. La fortune pouvait servir les projets de vengeance encore mal destinés et confus qu'elle allait mûrir. Elle s'endormit en se disant « À demain !» Par un phénomène inexpliqué, mais dont les effets sont familiers aux penseurs, son esprit devait, pendant le sommeil, travailler ses idées, les éclaircir, les coordonner, lui préparer un moyen de dominer la vie de Paul, et lui fournir un plan qu'elle mit en œuvre le lendemain même. Si l'entraînement de la fête avait chassé les pensées soucieuses, qui par moments avait assailli Paul, quand il fut seul avec lui-même et dans son lit, elle revint le tourmenter. « Il paraît, se dit-il, que, sans le bon Mathias, j'étais roué par ma belle-mère. Est-ce croyable? Quel intérêt l'aurait poussé à me tromper? Ne devons-nous pas confondre nos fortunes et vivre ensemble? D'ailleurs, à quoi bon prendre du souci? Dans quelques jours, Nathalie sera ma femme. Nos intérêts sont bien définis, rien ne peut nous désunir. Vogue la galère. Néanmoins, je serai sur mes gardes. Si Mathias avait raison, eh bien, après tout, je ne suis pas obligé d'épouser ma belle-mère. » Dans cette deuxième bataille, l'avenir de Paul avait complètement changé de face, sans qu'il le sût. Des deux êtres avec lesquels il se mariait, le plus habile était devenu son ennemi capital, et méditait de séparer ses intérêts des siens. Incapable d'observer la différence que le caractère créole mettait entre sa belle-mère et les autres femmes, il pouvait encore moins en soupçonner la profonde habileté. La créole est une nature à part, qui tient à l'Europe par l'intelligence, aux tropiques par la violence illogique de ses passions, à l'Inde par l'apathique insouciance avec laquelle elle fait ou souffre également le bien et le mal. Nature gracieuse d'ailleurs, mais dangereuse comme un enfant est dangereux s'il n'est pas surveillé. Comme l'enfant, cette femme veut tout avoir immédiatement. Comme un enfant, elle mettrait le feu à la maison pour cuire un œuf. Dans sa vie molle, elle ne songe à rien, elle songe à tout quand elle est passionnée. Elle a quelque chose de la perfidie des nègres qui l'ont entourée dès le berceau, mais elle est aussi naïve qu'ils sont naïfs. Comme eux et comme les enfants, elle sait toujours vouloir la même chose avec une croissante intensité de désir et peut couver son idée pour la faire éclore. Étrange assemblage de qualités et de défauts que le génie espagnol avait corroboré chez Madame Evangelista, et sur lequel la politesse française avait jeté la glace de son vernis. Ce caractère endormi par le bonheur pendant 16 ans, occupé depuis par les minuties du monde, et à qui la première de ses haines avait révélé sa force, se réveillait comme un incendie. Il éclatait à un moment de la vie où la femme perd ses plus chères affections et veut un nouvel élément pour nourrir l'activité qui la dévore. Nathalie restait encore pendant 3 jours sous l'influence de sa mère. Madame Evangelista, vaincue, avait donc à elle une journée, la dernière de celle qu'une fille passe avec sa mère. Par un seul mot, la créole pouvait influencer la vie de ces deux êtres destinés à marcher ensemble à travers les alliés et les grandes routes de la société parisienne, car Nathalie avait en sa mère une croyance aveugle. Quelle portée acquérait un conseil dans un esprit ainsi prévenu? Tout un avenir pouvait être déterminé par une phrase. Aucun code, aucune institution humaine ne peut prévenir le crime moral qui tue par un mot. Là est le défaut des justices sociales. Là est la différence qui se trouve entre les mœurs du grand monde et les mœurs du peuple. L'un est franc, l'autre est hypocrite. À l'un le couteau, à l'autre le venin du langage ou des idées. À l'un la mort, à l'autre l'impunité. Le lendemain, vers midi, Madame Evangelista se trouvait à demi couchée sur le bord du lit de Nathalie. Pendant l'heure du réveil, toutes deux luttaient de câlineries et de caresses en reprenant les heureux souvenirs de leur vie à deux, durant laquelle aucun discord n'avait troublé ni l'harmonie de leurs sentiments, ni la convenance de leurs idées, ni la mutualité de leurs plaisirs. « Pauvre chère petite !» disait la mère en pleurant de véritables larmes. « Il m'est impossible de ne pas être émue en pensant qu'après avoir toujours fait tes volontés, demain soir tu seras à un homme auquel il fera obéir. » « Oh, chère mère, quant à lui obéir !» dit Nathalie en laissant échapper un geste de tête qui exprimait une gracieuse mutinerie. « Vous riez !» reprit-elle. « Mon père n'a-t-il pas toujours satisfait vos caprices ? Pourquoi ? Il vous aimait. Ne serais-je donc pas aimée, moi ?»« Oui, Paul a pour toi de l'amour. Mais si une femme mariée n'y prend garde, rien ne se dissipe plus promptement que l'amour conjugal. » L'influence que doit avoir une femme sur son mari dépend de son début dans le mariage. Il te faudra d'excellents conseils. Mais vous serez avec nous. Peut-être, cher enfant. Hier, pendant le bal, j'ai beaucoup réfléchi aux dangers de notre réunion. Si ma présence te nuisait, si les petits actes par lesquels tu dois lentement établir ton autorité de femme étaient attribués à mon influence, ton ménage ne deviendrait-il pas un enfer? Au premier froncement du sourcil que se permettrait ton mari, fier comme je le suis, ne quitterais-je pas un instant la maison? Si je la dois quitter un jour, mon avis est de n'y pas entrer. Je ne pardonnerai pas à ton mari la désunion qu'il mettrait entre nous. Au contraire, quand tu seras la maîtresse, lorsque ton mari sera pour toi ce que ton père était pour moi, ce malheur ne sera plus à craindre. Quoique cette politique doive coûter à un cœur jeune et tendre comme est le tien, ton bonheur exige que tu sois chez toi, souveraine absolue. Pourquoi, ma mère, me disiez-vous alors que je dois lui obéir ?
Chère fillette, pour qu'une femme commande, elle doit avoir l'air de toujours faire ce que veut son mari. Si tu ne le savais pas, tu pourrais par une révolte intempestive gâter ton avenir. Paul est un jeune homme faible. Il pourrait se laisser dominer par un ami, peut-être même pourrait-il tomber sous l'empire d'une femme qui te ferait subir leurs influences. Préviens ses chagrins en te rendant maîtresse de lui. Ne vaut-il pas mieux qu'il soit gouverné par toi que de l'être par un autre ?
Certes, dit Nathalie, moi je ne puis vouloir que son bonheur.
Il m'est bien permis, ma chère enfant, de penser exclusivement au tien, et de vouloir que dans une affaire si grave, tu ne te trouves pas sans boussole au milieu des écueils que tu vas rencontrer.
Mais, ma mère chérie, ne sommes-nous donc pas assez fortes, toutes les deux, pour rester ensemble près de lui, sans avoir à redouter ce froncement de sourcils que vous paraissez redouter ?
Paul t'aime, maman.
Oh, il me craint plus qu'il ne m'aime. Observe-le bien aujourd'hui. Quand je lui dirai que je vous laisse aller à Paris sans moi, tu verras sur sa figure, quelle que soit la peine qu'il prendra pour la dissimuler, une joie intérieure.
Pourquoi ? Demanda Nathalie.
Pourquoi, cher enfant ? Je suis comme Saint Jean Bouche d'Or. Je le lui dirai à lui-même et devant toi.
Mais si je me marie à la seule condition de ne pas te quitter, dit Nathalie.
Notre séparation est devenue nécessaire, reprit Madame Évangélista, car plusieurs considérations modifient mon avenir. Je suis ruinée. Vous aurez la plus brillante existence à Paris. Je ne saurais y être convenablement sans manger le peu qui me reste. Tandis qu'en vivant à Lanstrac, j'aurai soin de vos intérêts et referai ma fortune à force d'économies.
« Toi, maman, faire des économies ?»
s'écria railleusement Nathalie.
« Ne deviens donc pas déjà grand-mère.
Comment, tu me quitterais pour de semblables motifs ? Chère mère, Paul peut te sembler un petit peu bête, mais il n'est pas le moins du monde intéressé. »
Ah ! Répondit Madame Évangélista d'un son de voix gros d'observation et qui fit palpiter Nathalie.
La discussion du contrat m'a rendue défiante et m'inspire quelques doutes. Mais sois sans inquiétude, chère enfant, dit-elle en prenant sa fille par le cou et l'amenant à elle pour l'embrasser. Je ne te laisserai pas longtemps seule. Quand mon retour parmi vous ne causera plus d'ombrage, quand Paul m'aura jugée, nous reprendrons notre bonne petite vie, nos causeries du soir.
Comment, ma mère ? Tu pourras vivre sans ta Nini ?
Oui, cher ange, parce que je vivrai pour toi. Mon cœur de mère ne sera-t-il pas sans cesse satisfait par l'idée que je contribue, comme je le dois, à votre double fortune ?
Mais, chère adorable mère, vais-je donc être seule avec Paul, là, tout de suite ? Que deviendrai-je ? Comment cela se passera-t-il ? Que dois-je faire ? Que dois-je ne pas faire ?
Pauvre petite, crois-tu que je veuille ainsi t'abandonner à la première bataille ? Nous nous écrirons 3 fois par semaine comme 2 amoureux, et nous serons ainsi sans cesse au cœur l'une de l'autre. Il ne t'arrivera rien que je ne le sache, et je te garantirai de tout malheur. Puis il serait trop ridicule que je ne vinsse pas vous voir. Ce serait jeter de la déconsidération sur ton mari. Je passerai toujours 1 mois ou 2 chez vous à Paris.
Seule, déjà seule et avec lui,
dit Nathalie avec terreur en interrompant sa mère.
Ne faut-il pas que tu sois sa femme ?
Je le veux bien, mais au moins dis-moi comment je dois me conduire, toi qui faisais tout ce que tu voulais de mon père. Tu t'y connais, je t'obéirai aveuglément.
Madame Évangélista baisa Nathalie au front. Elle voulait et attendait cette prière.
Enfant, mes conseils doivent s'adapter aux circonstances. Les hommes ne se ressemblent pas entre eux. Le lion et la grenouille sont moins dissemblables que ne l'est un homme comparé à un autre, moralement parlant. Sais-je aujourd'hui ce qui t'adviendra demain ?
je ne puis maintenant te donner que des avis généraux sur l'ensemble de ta conduite. Chère mère, dis-moi donc bien vite tout ce que tu sais.
D'abord, ma chère enfant, la cause de la perte des femmes mariées qui tiennent à conserver le cœur de leur mari est, dit-elle en faisant une parenthèse, conserver leur cœur ou les gouverner est une seule et même chose. Eh bien, la cause principale des désunions conjugales se trouve dans une cohésion constante qui n'existait pas autrefois et qui s'est introduite dans ce pays-ci avec la manie de la famille. Depuis la révolution qui s'est faite en France, les mœurs bourgeoises ont envahi les maisons aristocratiques. Ce malheur est dû à l'un de leurs écrivains, à Rousseau, hérétique infâme qui n'a eu que des pensées antisociales et qui, je ne sais comment, a justifié les choses les plus déraisonnables. Il a prétendu que toutes les femmes avaient les mêmes droits, les mêmes facultés, que dans l'état de société on devait obéir à la nature, comme si la femme d'un grand d'Espagne, comme si toi et moi nous avions quelque chose de commun avec une femme du peuple. Et depuis, les femmes, comme il faut, ont nourri leurs enfants, ont élevé leurs filles et sont restées à la maison. Ainsi, la vie s'est compliquée de telle sorte que le bonheur est devenu presque impossible, car une convenance entre deux caractères semblables à celle qui nous a fait vivre comme deux amis est une exception. Le contact perpétuel n'est pas moins dangereux entre les enfants et les parents qu'il l'est entre les époux. Il est peu d'âmes chez lesquelles l'amour résiste à l'omniprésence. Ce miracle n'appartient qu'à Dieu. Mets donc, entre Paul et toi, les barrières du monde. Va au bal, à l'opéra, promène-toi le matin, dîne en ville le soir, rends beaucoup de visites, accorde peu de moments à Paul. Par ce système, tu ne perdras rien de ton prix. Quand, pour aller jusqu'au bout de l'existence, deux êtres n'ont que le sentiment, ils en ont bientôt épuisé les ressources. Et bientôt l'indifférence, la satiété, le dégoût arrivent. Une fois le sentiment flétri, que devenir ? Sache bien que l'affection éteinte ne se remplace que par l'indifférence ou par le mépris. Sois donc toujours neuve et toujours jeune pour lui. Qu'il t'ennuie, cela peut arriver, mais toi, ne t'ennuie jamais. Savoir s'ennuyer à propos est une des conditions de toute espèce de pouvoir. Vous ne pourrez diversifier le bonheur ni par les soins de fortune ni par les occupations du ménage. Si donc tu ne faisais partager à ton mari tes occupations mondaines, si tu ne t'amusais pas, vous arriveriez à la plus horrible atonie. Là commence le spleen de l'amour. Mais on aime toujours qui nous amuse ou qui nous rend heureux. Donner le bonheur ou le recevoir sont deux systèmes de conduite féminine séparés par un abîme. Chère mère, je vous écoute, mais je ne comprends pas. Si tu aimes Paul au point de faire tout ce qu'il voudra, s'il te donne vraiment le bonheur, tout sera dit, tu ne seras pas la maîtresse, et les meilleurs préceptes du monde ne serviront à rien. Ceci est plus clair, mais j'apprends la règle sans pouvoir l'appliquer, dit Nathalie en riant. « J'ai la théorie, la pratique viendra. » « Ma pauvre Nini !» reprit la mère qui laissa tomber une larme sincère en pensant au mariage de sa fille et qui la pressa sur son cœur. « Il t'arrivera des choses qui te donneront de la mémoire. » « Enfin » reprit-elle après une pause, pendant laquelle la mère et la fille restèrent unies dans un embrassement plein de sympathie. « Sache-le bien, ma Nathalie, nous avons toutes une destinée en tant que femmes, comme les hommes ont leur vocation. Ainsi, une femme est née pour être une femme à la mode, une charmante maîtresse de maison, comme un homme est né général ou poète. Ta vocation est de plaire, ton éducation t'a d'ailleurs formée pour le monde. Aujourd'hui, les femmes doivent être élevées pour le salon, comme autrefois elles l'étaient pour le gynécée. Tu n'es faite ni pour être mère de famille, ni pour devenir un intendant. Si tu as des enfants, j'espère qu'ils n'arriveront pas de manière à te gâter la taille le lendemain de ton mariage. Rien n'est plus bourgeois que d'être grosse un mois après la cérémonie. Et d'abord, cela prouve qu'un mari ne nous aime pas bien. Si donc tu as des enfants,
deux ou trois ans après ton mariage, eh bien, les gouvernantes et les précepteurs les élèveront. Toi, sois la grande dame qui représente le luxe et le plaisir de la maison. Mais sois une supériorité visible seulement dans les choses qui flattent l'amour-propre des hommes, et cache la supériorité que tu pourras acquérir dans les grandes.
Mais vous m'effrayez, chère maman, s'écria Nathalie. Comment me souviendrai-je de ces préceptes? Comment vais-je faire, moi si étourdie, si enfant, pour tout calculer, pour réfléchir avant d'agir?
Mais, ma chère petite, je ne te dis aujourd'hui que ce que tu apprendrais plus tard, mais en achetant ton expérience par des fautes cruelles, par des erreurs de conduite, qui te causeraient des regrets et embarrasseraient ta vie.
Mais par quoi commencer? Dit naïvement Nathalie.
L'instinct te guidera, reprit la mère. En ce moment, Paul te désire beaucoup plus qu'il ne t'aime, car l'amour enfanté par les désirs est une espérance, et celui qui succède à la satisfaction est la réalité. Là, ma chère, sera ton pouvoir, là est toute la question. Quelle femme n'est pas aimée la veille? Sois-le le lendemain, tu le seras toujours. Paul est un homme faible, qui se façonne facilement à l'habitude. S'il te cède une première fois, il cédera toujours. Une femme ardemment désirée peut tout demander. Ne fais pas la folie que j'ai vue faire à beaucoup de femmes, qui, ne connaissant pas l'importance des premières heures où nous régnons, les emploient à des niaiseries, à des sottises sans portée. Sers-toi de l'empire que te donnera la première passion de ton mari pour l'habituer à t'obéir. Mais pour le faire céder, choisis la chose la plus déraisonnable, afin de bien mesurer l'étendue de ta puissance par l'étendue de la concession. Quel mérite aurais-tu en lui faisant vouloir une chose raisonnable? Serait-ce à toi qu'il obéirait? Il faut toujours attaquer le taureau par les cornes, dit un proverbe castillan. Une fois qu'il a vu l'inutilité de ses dépenses et de sa force, il est dompté. Si ton mari fait une sottise pour toi, tu le gouverneras.
Mon Dieu, pourquoi tout cela?
Parce que, mon enfant, le mariage dure toute la vie, et qu'un mari n'est pas un homme comme un autre. Aussi, ne fais jamais la folie de te livrer en quoi que ce soit. Garde une constante réserve dans tes discours et dans tes actions. Tu peux même aller sans danger jusqu'à la froideur, car on peut la modifier à son gré, tandis qu'il n'y a rien au-delà des expressions extrêmes de l'amour. Un mari, ma chère, est le seul homme avec lequel une femme ne peut rien se permettre. Rien n'est d'ailleurs plus facile que de garder sa dignité. Ces mots « Votre femme ne doit pas, votre femme ne peut pas faire ou dire telle et telle chose » sont le grand talisman. Toute la vie d'une femme est dans « Je ne veux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas » est l'irrésistible argument de la faiblesse qui se couche, qui pleure et séduit. « Je ne veux pas » est le dernier argument. La force féminine se montre alors tout entière. Aussi doit-on ne l'employer que dans les occasions graves. Le succès est tout entier dans les manières dont une femme se sert de ces deux mots, les commente et les varie. Mais il est un moyen de domination meilleur que ceci, qui semble comporter des débats. Moi, ma chère, j'ai régné par la foi. Si ton mari croit en toi, tu peux tout. Pour lui inspirer cette religion, il faut lui persuader que tu le comprends. Et ne pense pas que ce soit chose facile. Une femme peut toujours prouver à un homme qu'il est aimé, mais il est plus difficile de lui faire avouer qu'il est compris. Je dois te dire tout à toi, mon enfant, car pour toi, la vie avec ses complications, la vie où deux volontés doivent s'accorder, va commencer demain. Songes-tu bien à cette difficulté? Le meilleur moyen d'accorder vos deux volontés est de t'arranger à ce qu'il n'y en ait qu'une seule au logis. Beaucoup de gens prétendent qu'une femme se crée des malheurs en changeant ainsi de rôle. Mais, ma chère, une femme est ainsi maîtresse de commander aux événements au lieu de les subir, et ce seul avantage compense tous les inconvénients possibles. Nathalie baisa les mains de sa mère en y laissant des larmes de reconnaissance.
comme les femmes chez lesquelles la passion physique n'échauffe point la passion morale, elle comprit tout à coup la portée de cette haute politique de femme. Mais, semblable aux enfants gâtés qui ne se tiennent pas pour battus par les raisons les plus solides et qui reproduisent obstinément leurs désirs, elle revint à la charge avec un de ces arguments personnels que suggère la logique droite des enfants. « Chère mère, dit-elle, il y a quelques jours, vous parliez tant des préparations nécessaires à la fortune de Paul que vous seule pouviez diriger. Pourquoi changez-vous d'avis en nous abandonnant ainsi à nous-mêmes ? »
« Je ne connaissais ni l'étendue de mes obligations, ni le chiffre de mes dettes, » répondit la mère qui ne voulait pas dire son secret.
« D'ailleurs, dans un an ou deux d'ici, je te répondrai là-dessus. Paul va venir, habillons-nous. Sois chatte et gentille comme tu l'as été, tu sais. Dans la soirée, nous avons discuté ce fatal contrat, car il s'agit aujourd'hui de sauver un débris de notre maison et de te donner une chose à laquelle je suis superstitieusement attachée.
Quoi ?
Le discreto. Paul vint vers 4 heures. Quoiqu'il s'efforçât, en abordant sa belle-mère, de donner un air gracieux à son visage, Madame Évangélista vit sur son front les nuages que les conseils de la nuit et les réflexions du réveil y avaient amassés.
« Mathias a parlé, »
se dit-elle en se promettant à elle-même de détruire l'ouvrage du vieux notaire.
« Cher enfant, » lui dit-elle, « vous avez laissé vos diamants dans la console, et je vous avoue que je ne voudrais plus voir des choses qui ont failli élever des nuages entre nous. D'ailleurs, comme l'a fait observer Mathias, il faut les vendre pour subvenir au premier paiement des terres que vous avez acquises.
« Ils ne sont plus à moi, » dit-il. « Je les ai donnés à Nathalie, afin qu'en les voyant sur elle, vous ne vous souveniez plus de la peine qu'ils vous ont causée. » Madame Évangélista prit la main de Paul et la serra cordialement en réprimant une larme d'attendrissement.
« Écoutez, mes bons enfants, » dit-elle en regardant Nathalie et Paul, « s'il en est ainsi, je vais vous proposer une affaire. Je suis forcée de vendre mon collier de perles et mes boucles d'oreilles. Oui, Paul, je ne veux pas mettre un sou de ma fortune en rente viagère. Je n'oublie pas ce que je vous dois. Eh bien, j'avoue ma faiblesse. Vendre le discreto me semble un désastre. Vendre un diamant qui porte le surnom de Philippe II et dont fut ornée sa royale main, une pierre historique que pendant 10 ans le duc d'Albe a caressée sur le pommeau de son épée, non, ce ne sera pas. Élie Magu a estimé mes boucles d'oreilles et mon collier à 100 et quelques 1000 francs. Échangeons-les contre les joyaux que je vous livre pour accomplir mes engagements envers ma fille. Vous y gagnerez, mais qu'est-ce que cela me fait? Je ne suis pas intéressé. Ainsi, Paul, avec vos économies, vous vous amuserez à composer pour Nathalie un diadème ou des épis, diamant à diamant. Au lieu d'avoir ces parures de fantaisie, ces brimborions qui ne sont à la mode que parmi les petites gens, votre femme aura de magnifiques diamants avec lesquels elle aura de véritables jouissances. Vendre pour vendre, ne vaut-il pas mieux se défaire de ses antiquailles et garder dans la famille ses belles pierreries? « Mais, ma mère, et vous ? » dit Paul.
« Moi, » répondit Madame Évangélista, « je n'ai plus besoin de rien. Oui, je vais être votre fermière à Lanstrac. Ne serait-ce pas une folie que d'aller à Paris au moment où je dois liquider ici le reste de ma fortune? Je deviens avare pour mes petits-enfants. »
« Chère mère, » dit Paul tout ému, « dois-je accepter cet échange sans soulte ?»«
Mon Dieu, n'êtes-vous pas mes plus chers intérêts? Croyez-vous qu'il n'y aura pas pour moi du bonheur à me dire au coin du feu ?»«
Nathalie arrive ce soir, brillante au bal chez la duchesse de Berry. »
En se voyant mon diamant au cou, mes boucles d'oreilles, elle a ses petites jouissances d'amour-propre qui contribuent tant au bonheur d'une femme. » Et la rendent gaie, avenante. Rien n'attriste plus une femme que le froissement de ses vanités. Je n'ai jamais vu nulle part une femme mal mise être aimable et de bonne humeur.
Allons, soyez juste, Paul. Nous jouissons beaucoup plus en l'objet aimé qu'en nous-mêmes.
Mon Dieu, que voulait donc dire Mathias ? Pensait Paul.
Allons, maman, dit-il à demi-voix. J'accepte.
Moi, je suis confuse, dit Nathalie.
Solonet vint en ce moment pour annoncer une bonne nouvelle à sa cliente. Il avait trouvé, parmi les spéculateurs de sa connaissance, deux entrepreneurs à frioler par l'hôtel, où l'étendue des jardins permettait de faire des constructions.
« Ils offrent 250 000 francs, dit-il. Mais si vous y consentez, je pourrais les amener à 300 000. Vous avez deux arpents de jardin. »
Mon mari a payé le tout de 100 000 francs, ainsi je consens, dit-elle.
Mais vous me réserverez le mobilier, les glaces.
Ah, dit en riant Solonet, vous entendez les affaires.
Hélas, il faut bien, dit-elle en soupirant.
J'ai su que beaucoup de personnes viendront à votre messe de minuit, dit Solonet en s'apercevant qu'il était de trop et se retirant.
Madame Évangélista le reconduisit jusqu'à la porte du dernier salon et lui dit à l'oreille
« J'ai maintenant pour 250 000 francs de valeur. Si j'ai 200 000 francs à moi sur le prix de la maison, je puis réunir 450 000 francs de capitaux. Je veux en tirer le meilleur parti possible et compte sur vous pour cela. Je resterai probablement à Lanstrac. »
Le jeune notaire baisa la main de sa cliente avec un geste de reconnaissance, car l'accent de la veuve fit croire à Solonet que cette alliance, conseillée par les intérêts, allait s'étendre un peu plus loin.
« Vous pouvez compter sur moi, dit-il. Je vous trouverai des placements sur marchandises où vous ne risquerez rien et où vous aurez des gains considérables. »
« À demain, dit-elle, car vous êtes notre témoin avec monsieur le marquis de Gia. »
« Pourquoi, chère mère, dit Paul, refusez-vous de venir à Paris? Nathalie me boude comme si j'étais la cause de votre résolution. »
« J'ai bien pensé à cela, mes enfants. Je vous gênerai. Vous vous croiriez obligés de me mettre entière dans tout ce que vous feriez, et les jeunes gens ont des idées à eux que je pourrais involontairement contrarier. Allez seuls à Paris. Je ne veux pas continuer sur la comtesse de Manerville la douce domination que j'exerçais sur Nathalie. Il faut vous la laisser tout entière. Voyez-vous, il existe entre nous deux, Paul, des habitudes qu'il faut briser. Mon influence doit céder à la vôtre. Je veux que vous m'aimiez et croyez que je prends ici vos intérêts plus que vous ne l'imaginez. Les jeunes maris sont tôt ou tard jaloux de l'affection qu'une fille porte à sa mère. Ils ont raison, peut-être. Quand vous serez bien unis, quand l'amour aura fondu vos âmes en une seule, eh bien alors, mon cher enfant, vous ne craindrez plus, en me voyant chez vous, d'y voir une influence contrariante. Je connais le monde, les hommes et les choses. J'ai vu bien des ménages brouillés par l'amour aveugle des mères qui se rendaient insupportables à leurs filles autant qu'à leurs gendres. L'affection des vieilles gens est souvent minutieuse et tracassière. Peut-être ne saurais-je pas bien m'éclipser. J'ai la faiblesse de me croire encore belle. Il y a des flatteurs qui veulent me prouver que je suis aimable. J'aurai des prétentions gênantes. Laissez-moi faire un sacrifice de plus à votre bonheur. Je vous ai donné ma fortune, eh bien, je vous livre encore mes dernières vanités de femme. Votre père Mathias est vieux. Il ne pourrait pas veiller sur vos propriétés. Moi, je me ferai votre intendant. Je me créerai des occupations que tôt ou tard doivent avoir les vieilles gens. Puis, quand il le faudra, je viendrai vous seconder à Paris dans vos projets d'ambition. Allons, Paul, soyez franc. Ma résolution vous arrange, dites.
Paul ne voulut jamais en convenir, mais il était très heureux d'avoir sa liberté. Les soupçons que le vieux notaire lui avait inspirés sur le caractère de sa belle-mère furent en un moment dissipés par cette conversation, que Madame Évangélista reprit et continua sur ce ton.
« Ma mère avait raison, se dit Nathalie qui observa la physionomie de Paul. Il est fort content de me savoir séparé d'elle.
Pourquoi ?
Ce « pourquoi » N'était-il pas la première interrogation de la défiance, et ne donnait-il pas une autorité considérable aux enseignements maternels? Il est certains caractères qui, sur la foi d'une seule preuve, croient à l'amitié. Chez les gens ainsi faits, le vent du nord chasse aussi vite les nuages que le vent d'ouest les amène. Ils s'arrêtent aux effets sans remonter aux causes. Paul était une de ces natures essentiellement confiantes, sans mauvais sentiments, mais aussi sans prévision. Sa faiblesse procédait beaucoup plus de sa bonté, de sa croyance au bien, que d'une débilité d'âme. Nathalie était songeuse et triste, car elle ne savait pas se passer de sa mère. Paul, avec cette espèce de fatuité que donne l'amour, se riait de la mélancolie de sa future femme en se disant que les plaisirs du mariage et l'entraînement de Paris la dissiperaient. Madame Évangélista voyait avec un sensible plaisir la confiance de Paul, car la première condition de la vengeance est la dissimulation. Une haine avouée est impuissante. La créole avait déjà fait deux grands pas. Sa fille se trouva déjà riche d'une belle parure qui coûtait 200 000 francs à Paul et que Paul compléterait sans doute. Puis elle laissait ses deux enfants à eux-mêmes, sans autre conseil que leur amour illogique. Elle préparait ainsi sa vengeance à l'insu de sa fille, qui tôt ou tard serait sa complice. Nathalie aimerait-elle Paul? Là était une question encore indécise, dont la solution pouvait modifier ses projets, car elle aimait trop sincèrement sa fille pour ne pas respecter son bonheur. L'avenir de Paul dépendait donc encore de lui-même. S'il se faisait aimer, il était sauvé. Enfin, le lendemain soir, à minuit, après une soirée passée en famille avec les quatre témoins, auxquels Madame Évangélista donna le long repas qui suit le mariage légal, les époux et les amis vinrent entendre une messe au flambeau à laquelle assistèrent une centaine de personnes curieuses. Un mariage célébré nuitamment apporte toujours à l'âme de sinistres présages. La lumière est un symbole de vie et de plaisir dont les prophéties lui manquent. Demandez à l'âme la plus intrépide pourquoi elle est glacée, pourquoi le froid noir dévoûte les nerfs, pourquoi le bruit des pas effraie, pourquoi l'on remarque le cri des chats-huants et la clameur des chouettes. Quoiqu'il n'existe aucune raison de trembler, chacun tremble, et les ténèbres, images de mort, attristent. Nathalie, séparée de sa mère, pleurait. La jeune fille était en proie à tous les doutes qui saisissent le cœur à l'entrée d'une vie nouvelle, où malgré les plus fortes assurances de bonheur, il existe 1000 pièges dans lesquels tombe la femme. Elle eut froid, il lui fallut un manteau. L'attitude de Madame Évangélista, celle des époux, excitèrent quelques remarques parmi la foule élégante qui environnait l'hôtel. Solonet vient de me dire que les mariés partent demain matin, seuls pour Paris. Madame Évangélista devait aller vivre avec eux. Le comte Paul s'en est déjà débarrassé. Quelle faute, dit la marquise de Gia. Fermer sa porte à la mère de sa femme, n'est-ce pas l'ouvrir à un amant? Il ne sait donc pas tout ce qu'est une mère. Il a été très dur pour Madame Évangélista. La pauvre femme a vendu son hôtel et va vivre à Lanstrac. Nathalie est bien triste. Aimeriez-vous, un lendemain de noces, de vous trouver sur une grande route? C'est bien gênant. Je suis bien aise d'être venue ici, dit une dame, pour me convaincre de la nécessité d'entourer le mariage de ces pompes, de ces fêtes d'usage, car je trouve ceci bien nu, bien triste. Et si vous voulez que je vous dise toute ma pensée, ajouta-t-elle en se penchant à l'oreille de son voisin, ce mariage me semble indécent. Madame Évangélista prit Nathalie dans sa voiture et la conduisit elle-même chez le comte Paul. Eh bien, ma mère, tout est dit. Songe, ma chère enfant, à mes dernières recommandations et tu seras heureuse. Sois toujours sa femme et non sa maîtresse. Quand Nathalie fut couchée, la mère joua la petite comédie de se jeter dans les bras de son gendre en pleurant. Ce fut la seule chose provinciale que Madame Évangélista se permit, mais elle avait ses raisons.
À travers ses larmes et ses paroles, en apparence folles ou désespérées, elle obtint de Paul de ces concessions que font tous les maris. Le lendemain, elle mit les mariés en voiture et les accompagna jusqu'au-delà du bac où l'on passe la Gironde. Par un mot, Nathalie avait appris à Madame Evangelista que si Paul avait gagné la partie au jeu du contrat, sa revanche à elle commençait. Nathalie avait obtenu déjà de son mari la plus parfaite obéissance.